On est au Japon, à Kobe plus précisément. En 1967, des parents bruxellois voient pointer le nez de leur troisième petit bébé. Dans la chambre d'hôpital, l'enfant du milieu, une petite Juliette, se tient debout, le sourire aux lèvres, et attend que sa comparse de vie grandisse. Quand elle le raconte, Juliette évoque ce premier souvenir en noir et blanc.
Donc je l'ai connue tout bébé dans le lit d'hôpital le jour de sa naissance. On est allé à l'hôpital et j'ai vu ma maman qui était dans le grand lit avec le bébé. Alors qu'il y a des bébés qui naissent sans cheveux sur la tête. Et ça m'avait frappé de voir ces draps si blancs, cette peau si blanche et puis ces deux cheveux si noirs. C'est vraiment comme un flash. Et ça a été si fort que ça a été mon premier souvenir. Parce qu'en même temps, j'avais quand même 2 ans et demi. C'est un âge où on comprend.
La fratrie de 3 enfants se déplace souvent d'un pays à l'autre car leur papa est ambassadeur et voyage énormément. Les attaches se font et se défont, mais le lien entre sœurs se renforce. Elles décident de former un bloc, à 2, envers et contre tout. Si les écoles changent, les amitiés, les lieux de vie et les passe-temps aussi, la seule constante, c'est l'amour inconditionnel entre les 2 frangines. Il était une fois Amélie Nothon. Amélie, c'est ce qu'on appelle un bébé précoce. Elle n'a que 3 ou 4 ans quand elle commence déjà à lire. Elle apprenait toute seule. Bon, elle a décidé de parler très tard, mais elle avait déjà un goût particulier pour la littérature, car elle en avait des choses à dire. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à la base, dans la famille Nothon, c'est Juliette qui écrit.
J'écrivais comme tous les gosses, hein, des poèmes, des contes de fées, des pièces de théâtre. Ça sortait pas du lot, mais c'est moi qui écrivais. Et Amélie, comme elle m'admirait beaucoup, elle se disait « ça c'est le pré carré de ma sœur, je touche pas ». Et puis, à l'adolescence, comme beaucoup d'adolescents, j'ai changé, j'ai eu d'autres centres d'intérêt, j'ai arrêté d'écrire. Mais le 10, elle a 15 ans, elle n'écrit plus. Elle a 16 ans, elle n'écrit plus. À 17 ans, bon, au bout de 2 ou 3 ans, elle se dit « je pense que le pré-carré n'est plus si carré que ça et que je peux prendre ma place ». Et elle a commencé à écrire de son côté. Et puis, elle m'a montré ses écrits. Et pas une fois, je lui ai dit « ah, pourquoi tu écris? C'est moi qui devais écrire ». Non, pas du tout. Ça, c'était dans ses fantasmes, évidemment. Et j'ai tout de suite été extrêmement admirative. À 18 ans, elle écrivait déjà des choses, d'abord à mourir de rire, mais extrêmement matures et extrêmement brillantes. Ce qui fait que moi, j'étais, excusez-moi du terme, j'étais sur le cul de ce que cette gamine de 18 ans arrivait à écrire. Mais tout est parti de là. Ce respect qu'elle avait pour moi en tant que grande sœur de ne pas écrire si moi j'écrivais. Donc en quelque sorte, je me dis, mais comme j'ai bien fait d'arrêter d'écrire, parce que sinon, qu'est-ce que la littérature belge aurait perdu? Alors la suite, après, elle est partie au Japon, parce qu'elle sentait qu'elle avait besoin d'un retour aux sources, puisqu'elle est née au Japon et que jusqu'à l'âge où elle a dû quitter le Japon, elle se croyait japonaise. Et il a fallu qu'elle y retourne, et ça a donné ce merveilleux roman « Stupeur et tremblement » qu'elle a écrit 10 d'années plus tard, où elle raconte l'histoire, son histoire tout à fait vraie, et elle a rien rajouté, parce que j'ai vécu cette histoire quand elle m'écrivait. Moi, j'étais à Bruxelles, elle était au Japon, toutes les semaines, elle m'écrivait. Donc je savais exactement ce qui lui était arrivé chaque jour, et quand j'ai lu « Stupeur et tremblement », j'avais l'impression d'avoir juste vu, mis sur papier glacé, ce qui était sur papier à lettres 10 ans avant.
Le défi que me proposait M. Saito consistait à accepter l'invitation d'un certain Adam Johnson à jouer au golf avec lui le dimanche suivant. Il fallait que j'écrive une lettre en anglais à ce monsieur pour le lui signifier. « Qui est Adam Johnson ?» eus-je la sottise de demander. Mon supérieur soupira avec exaspération et ne répondit pas. Était-il aberrant d'ignorer qui était M. Johnson ou alors ma question était-elle indiscrète ? Je ne le sus jamais et je ne sus jamais qui était Adam Johnson. L'exercice me parut facile. Je m'assis et écrivis une lettre cordiale. Monsieur Saito se réjouissait à l'idée de jouer au golf le dimanche suivant avec Monsieur Johnson et lui envoyait ses amitiés. Je la portai à mon supérieur. Monsieur Saito lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira. Recommencez. Je pensais que j'avais été trop aimable ou familière avec Adam Johnson et je rédigeais un texte froid et distant. Monsieur Saito prenait acte de la décision de Monsieur Johnson et, conformément à ses volontés, jouerait au golf avec lui. Mon supérieur lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira. Recommencez ! J'eus envie de demander où était mon erreur, mais il était clair que mon chef ne tolérait pas les questions, comme l'avait prouvé sa réaction à mon investigation au sujet du destinataire. Il fallait donc que je trouve par moi-même quel langage tenir au mystérieux Adam Johnson.
C'est une expérience absolument horrifique, mais aussi extrêmement instructive. Et d'ailleurs, les Japonais ça a été perçu très, très curieusement au Japon, parce qu'il y a eu toute une part de jeunes Japonais qui ont battu des mains, qui ont applaudi en disant que ce monde de l'entreprise au Japon est absolument tyrannique, épouvantable. Et puis d'autres qui n'ont pas compris et qui ont cru que c'était un règlement de compte. Or, si vous lisez ce livre attentivement, c'est une ode d'amour au Japon. Même quand elle parle de sa pire ennemie au bureau, elle parle d'elle comme d'une déesse et des Japonais comme de personnes absolument merveilleuses. Et je l'ai relu plusieurs fois parce que j'ai fait un spectacle il y a quelques années en lisant des extraits de ses œuvres, donc je me suis replongée dedans. Et en lisant ce texte, je me dis, mais ceux qui disent que c'est une critique contre le Japon, ils n'ont rien compris.
Je ne comprenais toujours pas quel était mon rôle dans cette entreprise. Cela m'indifférait. Monsieur Saito semblait me trouver consternante. Cela m'indifférait encore. J'étais enchantée de ma collègue. Son amitié me paraissait une raison plus que suffisante pour passer 10 heures par jour au sein de la compagnie Yumimoto. Son teint, à la fois blanc et mat, était celui dont parle si bien Tanizaki. Fubuki incarnait à la perfection la beauté nippone, à la stupéfiante exception de sa taille. Son visage l'apparente à l'œillet du vieux Japon, symbole de la noble fille du temps jadis. Posé sur cette silhouette immense, il était destiné à dominer le monde.
Et bon, pour en revenir aux écritures d'Amélie, et après avoir fait cette expérience dans le monde du travail et compris que ce n'était pas fait pour elle, elle s'est dit, eh ben, je vais essayer de publier. Et au début, uniquement, voilà, pour essayer, mais elle n'y croyait pas vraiment. Et elle a envoyé son manuscrit à 2 maisons d'édition, la maison Gallimard et la maison Albin Michel. Et le lecteur de la maison Gallimard à l'époque, voyant jeune fille de 18 ans qui envoie un roman, il a dit ça c'est un canular parce qu'elle a la maturité d'un retraité de 65 ans. Et il a dit, moi j'aime pas les canulars, je prends un auteur tel qu'il est et je veux pas qu'on me raconte des salades. Et Albin Michel a trouvé ça très bien, il a voulu rencontrer Amélie. Aussi en se demandant comment est-ce qu'une jeune fille de... Elle avait plus 18 ans, elle avait 20 ans, 21 ans, mais c'est quand même encore une grande gamine. Et le jour où il a rencontré Amélie en vrai, à l'instant même, ils ont échangé 3 paroles, il a compris, oui, c'est bien elle qui a écrit le roman. Il n'y avait pas de doute, il suffit d'entendre Amélie parler. D'ailleurs, elle a un langage un peu suranné. Elle n'a jamais eu le moindre accent, ni belge, ni français, alors que Dieu sait qu'on a vécu dans beaucoup de pays. Parce qu'Amélie, elle a toujours parlé l'amélien, avec l'accent Amélie et avec le vocabulaire Amélie. Parce qu'elle a lu énormément de livres, donc elle a un vocabulaire, elle a lu des livres, mais elle a aussi lu des dictionnaires, des encyclopédies. Voilà, ce qui fait que, quand vous lisez ces livres, ben, il y a un vocabulaire absolument pointu. Et forcément, ça peut porter à confusion. Et je peux comprendre que chez Gallimard, ils aient pensé que c'était un canular. Mais voilà, la maison Albin Michel est une excellente maison à laquelle Amélie est restée fidèle encore aujourd'hui parce que c'est une maison qui lui a fait confiance.
Alors, je me présente, Christine Heubrex, de mon nom d'épouse Christine Denis, et j'ai travaillé 35 ans comme libraire chez Libris. Et donc, j'ai assisté à la naissance comme écrivain d'Amélie Nothomb, puisque la première dédicace qu'elle a fait à Bruxelles était chez Libris, là où je travaillais, pour la naissance d'un auteur. Il est vraiment important de parler de l'éditeur. Albin Michel, là aussi, a été le découvreur parce que l'éditeur est le premier lecteur. Après viennent les libraires, viennent les critiques et puis vient évidemment le lecteur. Mais l'éditeur a un rôle tellement important de soutien et de, comment dire, d'accoucheur, on lui donne même souvent ce terme, de l'écrivain. Et je suis reconnaissante aussi à Amélie Nothomb d'avoir continué toute sa carrière avec Albin Michel. Ça montre d'abord combien elle est fidèle, mais ça montre aussi combien cet éditeur a su combler ses attentes et combien elle a pu auprès de lui trouver le réconfort qu'a besoin un auteur qui a des doutes comme chacun d'entre nous.
J'ai continué à lire ses livres en première lectrice jusqu'à ce qu'on ait 30 ans parce qu'on vivait ensemble à Bruxelles et puis une fois qu'on a eu la trentaine, que sa notoriété allait croissant, elle a pensé que vivre à Paris était quand même... elle ne vit pas, elle n'est pas française, elle est domiciliée en Belgique, elle a toujours sa résidence en Belgique, mais il faut qu'elle soit le plus souvent possible à Paris, donc au moins avoir un pied à terre. Ce qui fait qu'on n'a plus vécu ensemble tout le temps, elle était beaucoup chez son éditeur, etc. Et à ce moment-là, depuis ça, maintenant, je suis presque sa première lectrice, parce que je reçois le manuscrit 2 mois plus tôt, mais je ne le reçois que quand il est sous forme de livre. Je n'ai plus ces cahiers manuscrits, qui sont d'ailleurs très agréables à lire, parce que, contrairement à Proust, il n'y a pas la moindre rature, il n'y a pas des... si vous lisez un manuscrit proustien, c'est horrible, quoi. Il écrit même à la verticale, à l'horizontale, parce qu'il a oublié de rajouter des trucs et s'est barré. Je pense que ses éditeurs ont dû devenir fous. Mais pour Amélie, je pense elle écrit toujours à la main, mais pour la personne qui tape, c'est très confortable parce qu'elle a une écriture très lisible, bon, très serrée, parce qu'elle est très écolo, il ne faut pas gaspiller de papier, donc recto, verso, pas de marge, hein, pas d'espace, pas d'interligne, mais c'est tout à fait agréable à lire. Voilà.
Ce que j'apporte à mon éditeur, c'est vraiment mon manuscrit, c'est-à-dire cahier d'écolier en papier recyclé, à petits carreaux, écrit au bic cristal bleu.
Ben, la grande terreur pour n'importe quel écrivain à succès, c'est le deuxième livre. Si votre premier roman a un grand succès, ben, vous tremblez à l'idée du deuxième. Et Amélie est passée par là. Et son deuxième livre était tellement différent du premier. Il était autobiographique, il était dans un autre pays, il était réel alors que l'autre était de la fiction. Et c'est ça le risque, c'est de faire quelque chose qui ressemble, mais qui est moins bien. Alors si c'est mieux, tant mieux, mais c'est plus casse-gueule. Tandis que voilà, elle est sortie du lot et elle a fait cette parcelle autobiographique d'une petite enfance, d'une histoire d'amour dans la petite enfance, qui est un pur chef-d'œuvre et qui est un des plus beaux livres d'amour qui soit, même si c'est une histoire d'amour entre deux petites filles prépubères, donc le sexe n'entre pas en ligne de compte, mais c'est de l'amour avec un grand A malgré tout, qui l'a emporté l'adhésion tout de suite et même parfois la préférence, parce que Amélie a plusieurs catégories de lecteurs, mais si on devait scinder de manière schématique, il y a ceux qui préfèrent les romans de fiction et ceux qui préfèrent les romans autobiographiques. Et comme ça, elle a donné à manger à chacun en l'espace de 2 ans. Ce qui était, peut-être sans le vouloir, mais c'était très habile parce qu'elle s'est tout de suite créée 2 catégories de lecteurs qui ne vont peut-être pas nécessairement aimer tout. Qui disent « mais moi j'achète quand c'est autobiographique ou je lis quand c'est autobiographique, je ne vais pas prendre les autres parce que la fiction, ce n'est pas mon truc pour raison X, Y ou Z qui est parfaitement légitime ».
Ben, je m'appelle Julie, je suis donc journaliste de profession et je suis quelqu'un d'assez curieux, passionné et optimiste, je dirais. En fait, c'est ma sœur à la base qui est méga fan d'Amélie Nothomb et donc elle me donnait ses bouquins à chaque fois et donc on se les échangeait quand on habitait encore chez mes parents. Donc j'adore le fait que ces histoires sont très sombres mais qu'à la fois, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quand même un truc où on peut sourire quand on le lit. Alors que ça peut être horrible, mais je ne sais pas, il y a toujours un truc un peu positif qui en ressort, je ne sais pas comment elle fait ça. Le livre dont je suis la plus fan, c'est Acide sulfurique. Je crois que c'est un des premiers que j'ai lu d'elle et en fait, j'ai complètement accroché. Elle me fait souvent cet effet-là que je ne peux pas me détacher de ce livre. Mais en fait, ici, je trouvais qu'il était incroyable dans le sens où l'histoire, c'est une télé-réalité tournée dans un camp de concentration. Et on se dit que c'est totalement possible que ça arrive un jour dans notre société absolument horrible. Et donc, je trouvais ça très proche de la réalité et à la fois très perturbant et très déstabilisant, un peu comme beaucoup de ses bouquins, en fait. Mais c'est vraiment celui que je retiens le plus, alors que ça fait des années que je l'ai lu. Mais ça restera toujours mon préféré, je pense.
Alors, je m'appelle Jeff Berthemes. Je suis ce qu'on appelle un fan, certainement, d'Amélie Nothomb, même si... comme tout le monde, ce terme un peu galvaudé que je n'aime pas trop, pense que je vais devoir passer par ce qu'elle dit dans les combustibles, justement. Ce n'est pas la question de savoir ce qu'on a préféré chez un auteur, mais plutôt de ce qu'on brûlerait en premier si on crevait de froid. Qui serais-je pour dire d'Amélie Nothomb qu'un livre est moins bon que l'autre, que je le préfère à l'autre? En tout cas, le livre que je garderai jusqu'à la fin et que je ne brûlerait certainement pas, c'est peut-être celui que je connais le moins, histoire d'avoir un peu plus de plaisir à le découvrir. Mais je dirais certainement Peplum et Soif, qui sont des romans que je n'ai certainement pas encore la capacité de comprendre et que je garderai pour vivre un peu plus longtemps. Et à chaque mois de septembre, je suis plus heureux des êtres humains en sachant qu'elle revient dans ma vie. Donc, ça me suffit entièrement et je ne fais aucun distinguo entre ce qu'elle a à dire de fiction ou non.
C'est autobiographique, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et en fait, on se demande toujours, mais est-ce qu'elle a vraiment fait ça? Est-ce qu'elle parle d'elle ou est-ce qu'elle parle de quelqu'un d'autre? Et donc, j'adore ce mélange entre les deux univers. C'est ça que je trouve incroyable dans son écriture, c'est qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait pas ce qu'il en est. Et donc, ça crée le doute, ça crée le questionnement. Mais c'est ça qui est fou aussi, c'est que à la fois, il y a plein de réels. Et à la fois, tous les noms des personnages sont complètement fous. Et donc, c'est ça aussi qui crée le doute. Je trouve ça génial. C'est ça aussi qui est hyper reconnaissable dans ces bouquins, c'est les noms des personnages, quoi. Parce que, en fait, qu'on commence son histoire, on sait que c'est elle. On sait que c'est son écriture, on sait que c'est son univers, mais on sait aussi que ce sont ses personnages.
Moi, j'y vois une cadence et j'y vois aussi un type de phrase. C'est vrai qu'elle a l'habitude de phrases relativement courtes et elle a une manière de mettre les choses en place qui est relativement... je ne sais pas comment... Je ne suis pas analyste de son œuvre. Je prends ça vraiment comme un voyage. Donc, je n'analyse pas trop, mais effectivement, il y a aussi la pirouette qu'elle utilise parfois pour des retournements de situation, pour des bascules d'intrigue. On retrouve quand même, de temps en temps, je dirais, une manière d'écrire.
C'est tapé juste. Et en fait, Amélie, avec son écriture qui s'affine d'année en année... Elle écrit de moins en moins et de mieux en mieux, parce que aucun mot n'est superflu. Et quand elle vous fait une analyse, c'est lapidaire, parce que lapidaire, c'est une pierre, on jette une seule pierre et la pierre suffit. Je suis sa première fan en heure et je continue à l'être. Je me dis toujours, si j'avais pas été sa sœur, mais que, ayant toujours adoré les livres, adoré la lecture, je crois que si j'avais rencontré par hasard ces livres ou si quelqu'un me les avait conseillés, j'aurais viré fan comme les autres. C'est ce que je me dis toujours. On ne peut pas mentir avec la lecture, parce que si vous n'aimez pas un livre, vous dites « j'aime beaucoup ce que vous faites » et puis vous partez et puis vous endormez quand vous lisez le livre. Tandis que, voilà, moi je lis le livre, il me plaît, je ne peux pas faire semblant. S'il ne me plaisait pas, je ne ferais pas semblant.
Je les ai donc tous lus, mais je voudrais revenir sur le fait qu'il y en a un seul qui ne m'a pas plu du tout. Alors, je ne vais pas vous dire lequel, parce que ça n'a aucune importance. Mais je me souviens l'avoir lu et avoir trouvé que c'était plat, que c'était lugubre, que c'était sinistre, alors que j'aime tant son humour. Je me suis dit, mais non, j'ai même regardé à deux fois en me disant il était mal broché, c'est quelqu'un d'autre. Mais non, en reconnaissant son écriture, je savais bien que c'était elle. Et donc, la première chose, c'est cette déception. C'est se dire, moi, lectrice, non, mais je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas d'être déçue. Surtout que j'avais lu les précédents et je m'apprêtais à lire les suivants. Donc, la première réaction du lecteur, c'est cette déception, je ne mérite pas ça. La deuxième est de dire que on est plusieurs dans cette relation au livre. Il y a l'auteur, il y a le texte et puis il y a le lecteur. Le lecteur entre pour moi dans le livre avec la cape d'invisibilité de Harry Potter. C'est-à-dire qu'on entre, là aussi, incognito dans le livre. Et il faut y mettre du sien. Si pour une raison X, on ne met pas du sien, c'est-à-dire soit qu'on décide dès le départ que cet univers ne nous plaît pas, que cet imaginaire n'est pas le bon, que les termes ne sont pas adéquats, que c'est fichu. Et donc, j'ai recherché ma responsabilité dans le fait que je n'aimais pas ce livre. Et j'ai pardonné.
Je dirais tout d'abord que lire un roman d'Amélie Nothomb, pour moi, c'est vraiment un moment hors du temps, hors des réalités un peu cruelles du digital, des réseaux, ce qu'on vit ou qu'on subit un peu au quotidien. Je disais, j'ai découvert Amélie Nothomb en 1993, donc... de mon grand âge, j'avais 9 ans, et Madame Jacqueline, parce que c'était son nom, une personne que j'adorais, m'a emmené à ce qu'on appelait le bibliobus à l'époque, donc les bus littéraires qui passaient dans les grandes campagnes. Et il fut un jour où j'avais fini la littérature jeunesse et j'ai voulu m'emparer de ce que je pensais être la comtesse de Ségur, mais je me suis emparé de Justine du Marquis de Sade et je me suis étonné de savoir qu'on me refusait l'allocation de ce livre. Ma mère, qui est une femme extrêmement intelligente, m'a dit « Écoute, ce n'est pas grave, nous allons aller dans une vraie bibliothèque. » Et j'ai rencontré la dame qui tenait la bibliothèque qui m'a dit « Mais tu sais, la littérature contemporaine existe. » Et là, elle m'a tendu « Hygiène de l'assassin. » Ma vie a été bouleversée à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte que dans ma campagne, la forme de culture n'était pas uniquement ce qui se passait à la plaine Saint-Denis, c'est-à-dire que Dorothée n'était certainement pas la seule forme de culture qui existait dans la vie. Je me suis rendu compte qu'une Belge comme moi parvenait à écrire, parvenait à casser les codes. Pour moi, c'est aussi un flirt avec la grande littérature.
Je sais qu'elle a reçu, dans les années 90, elle a reçu des prix régionaux, dont un grand prix de Cognac et aussi le prix René Fallet. Au moins 4 ou 5 grands prix régionaux, où on reçoit souvent du vin ou des choses comme ça, et aussi vraiment une grande reconnaissance. Donc ce sont des prix qui ne sont pas des prix mineurs, juste qui sont moins connus à l'étranger. Et les deux grands prix français, que sont le Grand Prix de l'Académie française en 2000 et le Renaudot en 2021, l'année dernière. Ce sont des reconnaissances finalement assez tardives. La reconnaissance en Belgique est curieusement un peu plus... Elle a eu moins vite du succès en Belgique qu'en France. Parce qu'en Belgique, on a un petit problème avec notre autopromotion. Autant le français, il est connu mondialement pour être chauvin. Alors le chauvinisme, c'est pas bien, mais un minimum de chauvinisme, c'est bien. Le belge, il n'est pas assez chauvin. Et quand il a des raisons de gloire, il ne s'en vante pas assez. Nous avons des tas de grands talents chez nous qui ont tous fait plutôt fortune, enfin pas fortune, mais succès en France, des Marie Gillin, des Benoît Poulvorde, des Cécile de France, qui ont un succès en France plus grand qu'ils ne l'ont en Belgique, parce que la reconnaissance du public est plus démocratique en France. Je crois qu'en Belgique, on est plus frileux, on est plus nordiste peut-être, je ne sais pas. Alors qu'Amélie, elle aurait pu, comme beaucoup d'artistes belges, à commencer par notre grande Johnny, se faire française. Et non, elle est toujours en Belgique, elle est domiciliée en Belgique, elle paye ses impôts en Belgique et elle y tient. Elle tient à rester belge, même pas d'avoir la double nationalité. Pour elle, la Belgique est extrêmement importante.
En 2015, Amélie Nothomb a été reçue à l'Académie royale de Belgique. Et elle a occupé le siège de Simon Leys, qui est un éminent sinologue, et qui était d'ailleurs encore auparavant, ce siège, occupé par Georges Simenon. Et donc ça aussi, ça met dans la belgitude d'Amélie Nothomb tout un historique de, là aussi, les gens qui l'ont précédé, puisque quand on occupe le siège, c'est que l'auteur est décédé. Et ça a dû sans doute, là aussi, apporter, une certaine ampleur, là aussi, à son rôle, en se disant qu'elle avait maintenant une place. C'est arrivé quand même en 2015, ce n'est pas arrivé si rapidement. Et cette succession, je trouve, lui convient, mais alors là, comme un gant.
Au moins, je dirais bien, au moins 2 de ses romans se passent ici. Le tout premier, Hygiène de l'assassin, c'est un lieu fictionnel qui est quelque part en France. Mais quand on voit les descriptions, c'est ici, c'est le lac, c'est les lacs du Pont-d'Oise, c'est le château, c'est la forêt d'Anlier. Et puis, le crime du comte Neville, qui a été écrit il y a, en 2016 ou 2015, je crois, où l'histoire se passe au château du Pluvier. Or, un Pluvier, c'est un oiseau, et une oie, c'est un oiseau. Donc, il ne fallait pas chercher très loin. Ça se passe dans un château en Ardennes, au bord d'un lac.
Fier d'avoir eu une vraie conversation avec sa fille, Neville se détendit quand lui revint la prédiction que la voyante avait proférée. Le premier dimanche d'octobre aurait lieu la fameuse garden party annuelle du château du Pluvier. C'était l'événement mondain de cette région reculée des Ardennes belges.
On voit que c'est le Pont d'Oise. Tous les gens de la région qui l'ont lu ont compris. Et d'ailleurs, Amélie ne l'a pas caché. Et voilà, toutes les descriptions, tous les livres d'Amélie où il est question de grandes forêts mystérieuses, y compris Riquet à la Houppe, qui est un conte de fées. Si forêt et nature il y a forcément une référence à la forêt d'Anlier et à la région du Pont d'Oise et toute cette vaste région de Gaume et d'Ardennes.
En cette période de crise, presque tout ce que le Gotha comptait d'honnêtes gens vendait leur château. Les Quétenuis avaient vendu Merlemont, les Nothomb vendaient le Pont d'Oise, etc. Neville espérait que le Pluvier connaîtrait l'honorable destin de Merlemont qui avait été racheté par une autre famille de la noblesse belge. Comme l'immense majorité des familles de ce milieu étaient apparentées, les Quétenis n'avaient pas eu l'impression de perdre leur fief. Au loin, ils aperçurent une tour du château encaissée au cœur de la forêt. Le comte sentit que sa fille partageait son émotion. Comme ils aimaient ce lieu, comme ils souffraient à l'idée de le perdre. Le plus dur était que désormais, ils ne pourraient défendre ce havre.
Donc oui, dans le village, les gens la connaissent, la reconnaissent et en même temps, ils la laissent tranquille. Hein, parce que c'est vraiment, ce sont des gens adorables qui savent qu'elle vient ici en vacances. Ce qui fait qu'elle a énormément de très bons contacts dans la région et il y a 3 ans, en 2019, on a dédicacé à Palisol, qui est aussi en province de Luxembourg. Et il y a eu plein de gens de la région qu'on n'avait jamais vus, mais qui nous connaissaient bien, qui connaissaient Amélie. Ça a été extrêmement sympathique. Ça a été une des dédicaces les plus sympathiques qu'on ait jamais eues, alors que c'était soi-disant dans un tout petit village. Mais il y a eu un monde fou. Je pense qu'Amélie est pleine de gratitude à l'égard des gens, des personnes de sa région, pour leur affection et pour la façon dont ils sont avec elle, c'est-à-dire plein de simplicité et sans vouloir essayer de la poursuivre, de la traquer, etc., etc. Amélie, elle est libre de se promener ici dans la forêt, et elle marche très vite, elle marche beaucoup. Et jamais personne n'est venu, si ce n'est pour la croiser et lui dire bonjour.
Mais j'ai eu la chance de la rencontrer à la Foire du Livre, et en fait, elle est tellement douce, gentille, elle s'intéresse à notre personne. Je trouvais ça incroyable parce que moi, j'avais plein de questions pour elle et c'est elle qui m'a posé des questions. Et enfin, je crois que je suis tombée un peu amoureuse d'elle à ce moment-là et je me suis dit, oh, j'ai encore plus envie de la lire parce que je l'aime encore plus en ayant pu attribuer son univers à cette personne.
Quand le succès vous arrive de manière absolument déferlante, ça fait tourner la tête parce qu'en une fois, vous avez des journalistes qui vous appellent tous les jours, on vous demande de dédicacer là, signer là, et elle était toute jeune. Bon, elle avait, quand elle a publié, je crois qu'elle avait 24 ans, 25 ans. Et en une fois, elle a été propulsée dans un monde médiatique. Et elle m'a dit, dans les débuts, elle ne refusait rien. Elle acceptait tous les interviews, tous les salons, dans le moindre petit bled de France, de Belgique, d'Italie, partout, partout, partout. Elle allait. Et elle a frisé le burn-out. Et au bout d'un an ou deux, elle a mis un frein. Mais c'est vrai que dans les débuts, je veux dire, n'importe lequel d'entre nous, on devient célèbre, ben, on est heureux, on est grisé, on est ivre, on dit oui à tout parce qu'on n'arrive pas à croire que ça nous arrive à nous aussi. Et elle, pour ça, elle a suivi le chemin d'un peu tout le monde. Mais elle a par contre jamais pris le melon, toujours gardé la tête froide parce qu'elle a ce talent qu'ont les vrais grands artistes de toujours douter d'elle-même. Donc Amélie est émerveillée par cette longue carrière de 30 ans d'édition, ce qui ne veut pas dire 30 ans d'écriture, puisqu'elle a écrit au moins 10 ans auparavant. Voilà, chaque fois, elle vit ça comme un rêve, comme quelque chose d'extraordinaire qui aurait pu ne pas se produire et qui est tout simplement un bonheur que nous n'avons pas tous dans la vie, d'aimer ce qu'on fait comme métier. Et Amélie, elle a eu cette chance. Alors, elle a dû batailler pour l'avoir, elle a dû insister, elle a dû galérer comme beaucoup de personnes. Être écrivain dans un monde qui est malgré tout un monde d'hommes, avec surtout des éditeurs qui sont souvent des hommes, elle a dû apprendre à se battre, mais Amélie a toujours eu une excellente répartie. La réponse du tac au tac, voilà, elle a ce qu'on appelle la langue bien pendue, elle a toujours la bonne réplique à adresser, mais elle l'a eue et elle en est consciente et elle remercie le ciel et toute la création d'avoir cette carrière merveilleuse. La célébrité, bien évidemment, n'apporte pas que des avantages, mais elle est du côté de ceux qui disent que malgré tout, la célébrité, c'est quelque chose de très bien.
Et pour terminer, je voudrais aussi citer Marcel Proust. « Nous, lecteurs, sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit. Et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses, quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. » Et là aussi, je me suis souvent demandé, comment fait-elle Amélie Nothomb pour mêler si bien son imagination à la nôtre? Et comment fait-elle pour rester aussi, je dirais, dans notre quotidien, alors qu'elle n'a pas d'ordi, pas de téléphone? Enfin, c'est ce qu'elle dit, il faut peut-être bien la croire. Moi, je me souviens qu'après des réunions à Michel, elle reprenait le métro, comme tout le monde. Et donc, là aussi, elle reste très proche, même si elle n'est pas connectée, elle reste très proche, je crois, d'un quotidien qui est un quotidien très ordinaire. Mais c'est toute l'imagination qui fait la différence.
Merci à Juliette Nothomb pour ce moment hors du temps, à l'orée du bois de la forêt d'Anlier. Et une petite attention particulière au service du livre luxembourgeois qui a remué ciel et terre pour nous dégoter les personnes ressources parfaites pour cet épisode. Merci aussi à Christine Huybrecht pour sa fine analyse et sa poésie. On remercie également les fans inconditionnels que sont Julie et Jeff pour avoir pris le temps de répondre à nos petites questions. Il était une fois nos femmes wallonnes est une série de podcasts qui redonne vie à des femmes qui ont marqué et marquent l'histoire peu connue, voire oubliée, de la Wallonie. Qu'elles soient autrices, entrepreneuses ou militantes, ces badass d'hier et d'aujourd'hui rayonnent sur notre patrimoine wallon. Cette série sonore est une création originale du studio Ultravague, soutenu par Star Invest. À l'interview, Héloïse Rouard. À l'écriture et au montage, Cassie Enaf. Au mixage, Marius Adam. À la prise de son, Noémie Lalou et Anne-Sophie Skitekat. À l'interprétation, Gaëlle Swan. Les visuels sont de Gilda Fellé. Et la voix off, c'est moi, Jessica Riga.